Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un déjeuner à l'arrière-goût peut-être amer aujourd'hui à l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit le nouveau chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, pour tenter de dépasser les échanges houleux sur la crise migratoire exacerbée par l'errance de l'Aquarius, ce navire chargé de 630 migrants clandestins que l'Italie a refusé de laisser accoster, l'Aquarius qui se dirige désormais vers Valence en Espagne.
L'Union européenne qui se divise sur la question migratoire mais qui s'unit pour taxer lourdement des dizaines de produits américains dont le tabac, le bourbon, les jeans ou les motos en réponse aux droits de douane des États-Unis sur son acier.
La Banque Centrale Européenne va mettre fin à sa politique de rachat massif des dettes en Europe. Pourquoi maintenant et pour quels effets attendus? Ce sera l'objet du billet économique de Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal. Mais auparavant, nous parlerons du rapport de Jean-Louis Bianco sur la laïcité remis ce matin à Édouard Philippe. Le président de l'Observatoire de la laïcité admet que des tensions persistent dans la société française.
Et puis la question du jour, Catherine, dans une quinzaine de minutes, 536 jours de détention au Mali pour Sophie Pétronin, que réclament les ravisseurs? Nous serons en ligne avec Jean-Bernard Véron, qui est ancien rédacteur en chef de la revue Afrique Contemporaine.
Un déjeuner suffira-t-il à les réconcilier? Emmanuel Macron reçoit vers 13h aujourd'hui le chef du gouvernement italien, le populiste Giuseppe Conte, pour tenter de clore une semaine de fortes tensions entre Paris et Rome, provoquées par la crise migratoire qui frappe l'Europe en général et l'Italie en particulier. L'Italie et la France qui se sont déchirées sur la responsabilité de l'accueil des 630 migrants secourus à bord de l'Aquarius le week-end dernier et que le gouvernement italien a refusé de laisser accoster. Cynisme, a dénoncé mardi Emmanuel Macron. Hypocrisie de la France, a répliqué Rome dans la foulée. Depuis, les tensions entre les deux pays se sont apaisées, mais elles ont marqué les esprits. Le reportage à Rome de Mathilde Imberti.
Emmanuel Macron dit n'avoir voulu offenser ni l'Italie ni le peuple italien. Mais sa déclaration de mardi a laissé un goût amer, tant le pays s'est senti abandonné face à la crise migratoire. Davide, étudiant, relaye le sentiment général.
Le discours de Macron est apparu hypocrite, celui du gouvernement français en général. Ils font la leçon à l'Italie et dans le même temps, ils barricadent les frontières, comme à Ventimiglia.
L'Italie échaudée attend des actes et une véritable collaboration, relève le journal. Alberto Negri du quotidien Sole 24 Ore. Spécialiste de la question libyenne, il estime que ce qui se passera là-bas est central.
Le problème entre la France et l'Italie porte un nom, la Libye. Ça a démarré en 2011 avec les bombardements commandés par Sarkozy. Aujourd'hui, si on veut arrêter les flux migratoires, il faut assurer la stabilité de la Libye et la France de Macron n'a encore rien démontré de concret. Il avait annoncé par exemple l'ouverture de centres d'identification des migrants là-bas pour ensuite abandonner cette idée qui était irréalisable.
Le temps d'un déjeuner, de Giuseppe Conte devra oublier les crispations des derniers jours et obtenir l'aide de la France. Après Paris, il se rend à Berlin lundi.
L'Europe en quête d'union sur la question migratoire avant le Conseil européen des 28 et 29 juin prochains. Les ministres italiens, autrichiens et allemands de l'intérieur veulent constituer un axe des volontaires pour s'attaquer à l'immigration clandestine, loin de la ligne tracée par Angela Merkel et Emmanuel Macron, accusés d'être trop généreux dans leur accueil des réfugiés. En attendant des négociations politiques, l'Aquarius et deux navires italiens continuent leur traversée vers les côtes espagnoles avec 630 personnes à leur bord, dont une centaine d'enfants et d'adolescents, ainsi que 7 femmes enceintes. Les bateaux longent actuellement la côte est de la Sardaigne, direction Valence en Espagne. La correspondance de Marie-Hélène Ballestero.
A priori, la flottille composée de l'Aquarius et de 2 bateaux italiens devrait accoster finalement dimanche matin, si l'on en croit le gouvernement espagnol. Ce retard est dû aux mauvaises conditions climatiques en mer Méditerranée qui ont contraint l'expédition à dévier de sa route. En attendant l'arrivée des migrants, les préparatifs vont bon train à Valence. Selon la vice-présidente du gouvernement espagnol Carmen Calvo, les 3 navires arriveront séparément au port de Valence à quelques heures d'intervalle. L'objectif est d'offrir aux migrants une meilleure assistance sanitaire, psychologique et par la suite juridique. Sur le plan juridique, justement, l'Espagne va examiner au cas par cas la situation de chaque migrant et les demandes d'asile pour déterminer qui peut être considéré comme réfugié. Carmen Calvo a rappelé hier que l'Espagne va respecter la loi et le cas échéant, certains migrants seront envoyés dans des centres d'internement d'étrangers ou dans des centres d'aide humanitaire. En somme, ils seront traités de la même manière que les milliers de migrants qui sont arrivés depuis le début de l'année en Espagne par la mer. à bord d'embarcations de fortune. C'est ce qu'a affirmé hier le tout nouveau ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska. Il en a profité également pour faire une autre annonce importante. Il va faire tout ce qui est possible pour que les barbelés des barrières des enclaves africaines de Ceuta et Melilla soient retirés. De nombreux migrants ont été gravement blessés ces dernières années par ces barbelés. En 2014, l'actuel chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez s'était engagé à les enlever s'il arrivait au palais de la Moncloa.
Marie-Hélène Ballestero à Madrid pour France Culture. Alors que la question migratoire divise les Européens, les 28 sont parvenus à s'unir sur un autre dossier, les mesures de rétorsion contre les surtaxes américaines sur l'acier et l'aluminium européen vendus aux États-Unis. Contre-offensive adoptée à l'unanimité hier en imposant des droits de douane sur l'équivalent de près de 3 milliards d'euros de produits importés cette fois des États-Unis. La Commission européenne est chargée de mettre l'affaire en route pour que ces mesures de rétorsion s'applique dans les plus brefs délais, Quentin Dickinson.
Ils l'ont dit et ils l'ont fait. C'est à l'unanimité que les représentants des 28 pays de l'Union européenne ont adopté hier la liste des produits d'origine américaine qui seront frappés d'une surtaxe de 25% à l'importation dans l'UE, ce qui représente une pénalisation de près de 3 milliards d'euros pour les entreprises des États-Unis visées. Celles-ci n'ont pas été choisies au hasard. Elles exportent des produits symboles du mode de vie à l'américaine, tels le bourbon du Kentucky, le jus d'orange industriel de Floride, les blue jeans ou les motos Harley-Davidson. Et ces produits ont une autre caractéristique. Ils proviennent tous de circonscriptions qui ont voté massivement pour Donald Trump lors de l'élection présidentielle. La Commission européenne est chargée de mettre en œuvre ces mesures de rétorsion, ce qu'elle fera lors de la prochaine réunion hebdomadaire du Collège des commissaires. Ce sera mardi prochain pour une entrée en vigueur probable au 1er juillet. Chacun ici est conscient que le bras de fer transatlantique ne fait que commencer.
Autre bras de fer commercial, celui des États-Unis avec la Chine, l'administration Trump doit dévoiler aujourd'hui une liste définitive des marchandises chinoises susceptibles d'être frappées de droits de douane punitifs. Si la croissance de l'économie américaine va s'accélérer, dopée par le stimulus budgétaire de l'administration Trump, gare au risque d'inflation surprise et à l'impact des mesures protectionnistes. C'est l'avertissement lancé hier par le FMI, le Fonds monétaire international. Donald Trump a-t-il détourné de l'argent de sa fondation à des fins personnelles? Le procureur général de l'État de New York a attaqué, en tout cas en justice, hier, le président des États-Unis ainsi que trois de ses enfants et la fondation Trump, estimant que Donald Trump s'était servi illégalement donc de cette fondation comme d'un chéquier, notamment pour sa campagne présidentielle de 2016.
Et bien voilà, il est 7h07 sur France Culture et c'est la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. De violents combats ont fait 39 morts hier au Yémen.
Parmi les rebelles et les forces pro-gouvernementales aux portes d'Odeida, cette ville clé que les forces pro-gouvernementales appuyées par les Émiratis et les Saoudiens sunnites veulent reprendre aux rebelles houthis, soutenus eux par l'Iran chiite. La ville d'Odeida est un point crucial et les ONG craignent pour la vie des civils. Elles appellent à la retenue dans un Yémen en ruine où près d'un habitant sur trois souffre de famine, Marion Lefèvre.
Attaquer le port d'Odeida, c'est menacer la population yéménite d'une crise humanitaire sans précédent, puisque selon les Nations Unies, 70% de l'aide internationale y transite. Mais pour François Frison-Roche, chercheur au CNRS, le sort des yéménites est bien loin des préoccupations de la coalition pro-gouvernementale menée par l'Arabie Saoudite.
On rentre là dans un jeu stratégique bien particulier. La coalition pense qu'en prenant le port d'Odeida, ils vont obliger les Houthis à négocier en position de faiblesse.
Sur le terrain, l'Arabie Saoudite est en première ligne avec ses alliés internationaux. En face, les rebelles houthistes, soutenus par l'Iran. L'offensive contre Odeida confirme donc que le Yémen traverse une guerre par procuration où se joue bien plus que l'avenir du pays.
Il y a une double visée, à la fois au Yémen, et bien montrer à l'Iran que la coalition arabo-sunnite ne lâche rien et ne permettra jamais que l'Iran puisse avoir une quelconque influence au Yémen.
Pour l'Arabie Saoudite, la prise du port d'Odeida ne serait donc qu'un moyen de plus pour endiguer l'emprise de l'Iran et étendre sa propre influence sur la région.
Deux projets d'attentats djihadistes ont été mis en échec en France par les services de renseignement. En mai, un homme converti est radicalisé, selon des sources proches de l'enquête. Un homme de 38 ans a été arrêté à Châteauroux, dans l'Indre. Il aurait voulu faire usage d'un engin improvisé explosif contre un club libertin. Et puis dans une autre affaire, deux jeunes hommes inconnus des services de renseignement ont été arrêtés début juin en Seine-et-Marne. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu préparer une attaque au nom du groupe État islamique, potentiellement contre des homosexuels. En France, malgré la vague d'attentats islamistes, les atteintes directes à la laïcité restent peu répandues et mieux contenues. Voilà ce que l'on peut lire dans l'introduction du rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité. Son président Jean-Louis Bianco remet ce matin au Premier ministre Édouard Philippe ce texte. Et c'est une question délicate pour Emmanuel Macron qui avait promis un grand discours sur la laïcité, Antoine Maret.
L'Élysée avait d'abord songé à décembre dernier, puis janvier, avant d'évoquer le premier semestre 2018. Mais ce grand discours promis sur la laïcité se fait toujours attendre. Emmanuel Macron consulte et semble hésiter. Emmanuel Macron, candidat, défendait une laïcité inclusive et dénonçait, je cite, « une vision revancharde de la laïcité posant des interdits, surtout à l'encontre d'une religion en particulier ». Sous-entendu au détriment de l'islam. Emmanuel Macron, président, est désormais beaucoup plus prudent sur cette question très délicate et certains experts voient dans les dernières déclarations du chef de l'État un raidissement sur l'islam. Il y a eu le discours « Hommage au colonel Beltrame », tué lors de l'attaque djihadiste de Trèbes en mars dernier. Aux Invalides, il a sonné la charge contre, je cite, « un islamisme souterrain qui accomplit son œuvre de manière invisible ». Un mois plus tard sur BFM TV, il a appelé, je cite, à une bataille pour l'émancipation sur le voile jugé non conforme à la civilité, tout en affichant sa volonté de nouer des relations pacifiées avec les cultes. Mardi dernier, contrairement à l'année passée, le chef de l'État ne s'est pas rendu au dîner annuel du CFCM, célébrant la fin du Ramadan, comme si Emmanuel Macron souhaitait une nouvelle fois repousser sa prise de parole promise sur la réorganisation de l'islam de France.
Et pour Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité, cette laïcité française est aujourd'hui mise à mal par le manque de mixité sociale et le communautarisme.
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des quartiers où il y a des pressions, mais des pressions qui résultent à la fois des individus et parfois d'une organisation collective, et qui là sont évidemment des atteintes à la République. Mais s'il y a des pressions communautaristes, c'est parce qu'il y a, pardonnez-moi la paillissade, des communautés. Et pourquoi il y a des communautés ? Parce qu'on a largement échoué sur la mixité sociale. Donc le grand danger pour la République, c'est l'absence de mixité sociale qui permet en effet à la loi du quartier, ça peut être d'ailleurs la loi de l'économie de la drogue, comme la loi d'un islamisme radical, de faire pression sur les individus. Et ça, c'est très dangereux, c'est un combat central à nos yeux pour les années à venir. Et dans l'immédiat, il ne faut rien laisser passer. Mais ce n'est pas directement une question de laïcité. Quand on fait une pression sur quelqu'un pour qu'il adopte un comportement, quand on refuse, par exemple, de servir une femme dans un restaurant, ce n'est pas directement la laïcité. C'est la discrimination et le refus de vente. Donc la personne qui en est victime est en droit de porter plainte. Si elle ne le peut pas, une association peut le faire. Et si l'association ne peut pas, nous recommandons que ce soit le procureur de la République, au nom de l'État, qui ne laisse pas passer des tels comportements, contraires aux lois et aux valeurs de la République, avant même d'être attentatoire à la laïcité.
Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité, joint par Stanislas Vazak.